étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close, qui donc pouvaient être ces gosses, cette invasion de petites filles.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 19e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B l'auteur saône-et-loirien de naissance, burgien de cœur et normand d'adoption, Philippe Ridet. Philippe, bonsoir.
Bonsoir.
Vous préférez le mot auteur, écrivain ou romancier lorsqu'on vous présente?
Alors, on va procéder par élimination. Auteur, ça ne me plaît pas du tout. Il me semble que c'est un fourre-tout dans lequel on mêle aussi bien des romanciers de génie que des journalistes d'un jour. Donc, j'élimine. Romancier, ça voudrait dire que je n'écris que des romans, c'est-à-dire qui commenceraient par Il était une fois ou quelque chose d'approchant, donc ça ne me correspond pas. Écrivain, après tout, il y a une activité physique dans l'écriture qui est celle de taper sur son clavier, autrefois d'écrire à la main, donc ça me plaît assez, mais j'aurais personnellement une petite préférence pour homme de lettres, qui veut dire à la fois qu'on aime lire, mais aussi qu'on aime écrire. Et je me souviens que quand je me suis fait faire un passeport dans les années 80 à la préfecture de Nanterre, on m'avait déconseillé d'écrire que j'étais journaliste pour pas avoir à subir des suspicions dans certains états où la presse était mal vue. Et on m'avait conseillé de mettre homme de lettres. Et j'avais trouvé ça absolument charmant et très pratique. Et finalement, c'est pas si mal. En tous les cas, ni auteur, ni romancier, peut-être écrivain, mais en tous les cas, homme de lettres, oui.
Bien. Alors, les Ridet et Bourg-en-Bresse, c'est une très longue histoire. Un papa qui a fini directeur départemental adjoint à la Poste.
Ouais.
Une maman institutrice et adjointe au maire de Bourg-en-Bresse.
Oui, surtout adjointe plus qu'institutrice. C'est une profession qu'elle a exercée peut-être deux années au tout début de sa vie. Après, elle a eu cinq enfants, donc elle a pu beaucoup le loisir d'exercer une profession, malheureusement.
D'accord. Donc, deux personnes très engagées dans la vie de la cité.
Oui.
Ce sont forcément eux qui vous ont donné envie de lire et d'écrire?
Oui et non. C'est-à-dire que j'étais un enfant plutôt rétif à la lecture. J'étais à l'école, là, juste à côté, à l'école Lazare Carnot, et je ne lisais pas. Je ne lisais pas, j'avais pas de goût pour ça. Et puis, il me semble qu'arrivé en CM2, j'ai commencé à lire des livres pour enfants, Le Club des Cinq, Le Clan des Six, Le Club des Sept, enfin, je ne sais plus combien on était. et j'ai commencé à prendre goût à ce qu'on me raconte des histoires, mais j'étais quand même assez méfiant. Et puis, pour une raison qui serait trop longue à expliquer ici, ma mère m'a dit « si tu fais ça, je te donnerai un livre ». Et je ne sais pas pourquoi, le simple fait qu'il y ait une sorte d'échange, voire de chantage, m'a donné envie de lire. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lire. Et je suis très rapidement plongé dans des romans, mais des choses assez bizarres finalement. Je me souviens que le premier livre d'adulte que j'ai lu vers 11 ou 12 ans, c'était un livre de François Mauriac. Alors aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on lit évidemment plus, et peut-être avec raison d'ailleurs. Et ça m'avait plu, mais je crois aussi surtout que la lecture a été pour moi un moyen d'être seul dans une fratrie de cinq. C'est-à-dire que la lecture m'est apparue comme un refuge, comme un endroit où on n'irait pas m'embêter, parce que ma mère souhaitait que je lise, donc elle n'allait pas me faire le reproche de lire. Quant à l'écriture, c'est venu beaucoup plus tard, à partir peut-être de la seconde au lycée Lalande, seconde, première. Et je crois que là encore, le rapport à la mère est assez fort, parce que je n'ai pas osé écrire pendant longtemps parce que je n'avais pas d'orthographe. Et d'ailleurs, je n'en ai toujours pas. Je suis le meilleur client des correcteurs d'orthographe sur les ordinateurs. J'ai l'impression qu'ils ont été conçus pour moi. Et je crois que j'ai écrit parce que je voulais épater ma mère, tout simplement. Et peut-être deux ou trois autres personnes qui m'aimaient, mais essentiellement, le rapport à l'écriture, il est celui-ci.
On parle de l'écriture, il n'y avait pas que les mots qui avaient de l'importance pour vous, il y avait aussi le sport. Quelle place tenait-il lorsque vous habitiez dans l'Ain ?
Alors, le sport... Plutôt que dire le sport, ce n'est qu'un seul sport, c'est la natation. Donc j'ai été sociétaire du club nautique de Bourg-en-Bresse, le CNB, et de, je sais pas, 69 à 74 peut-être, 5 années, enfin. Donc au tout début, où j'ai commencé, on ne s'entraînait que l'été, parce qu'il n'y avait pas de piscine d'hiver, il n'y avait pas encore la piscine de Caria ou la piscine plein soleil, tout ça, ça n'existait pas. Donc on s'entraînait que l'été à la piscine municipale, à raison de deux fois par jour, de 10h à midi et de 6h à 20h, enfin 18 à 20h. Et en fait, je n'ai pas choisi la natation parce que c'était un sport, parce que finalement, il y a d'autres sports que j'ai pratiqués, comme le tennis, qui ont peut-être plus plu. J'ai surtout choisi la natation parce que c'était mixte. Et que la mixité, c'était une chose qui n'allait pas de soi dans les années 60. Moi, j'étais au lycée Lalande, c'était un lycée de garçons. Et la piscine, c'était mixte, et cette idée m'a plu. Et en plus, c'est un endroit... où là encore, un peu comme la lecture, ça m'a permis de m'isoler de la fratrie, même si mes sœurs venaient parfois aussi à la piscine. Et pour une d'entre elles, était elle-même inscrite au club. Mais c'était aussi un endroit où on échappait à la famille. Voilà, on allait à la piscine de 10h à midi. On y restait souvent entre midi et 2, comme on disait. Et puis on y passait l'après-midi, et puis après il y avait l'entraînement du soir, et ça faisait comme ça une journée un peu hors du monde, ensoleillée, aquatique, et finalement érotique.
Alors, votre vie va basculer le jour où vous ratez votre baccalauréat, vous montez à Paris...
Non, je l'ai réussi. Non, je l'ai réussi. Ah, vous l'avez réussi du deuxième coup, mais...
Pourquoi j'ai vu que vous l'avez raté? Je confonds avec quelqu'un...
C'est très humiliant.
Je confonds avec quelqu'un de vos romans, non? Je ne sais plus. Alors bon, donc vous montez à Paris quand même pour travailler à La Poste.
Alors, ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est pas tout à fait comme ça. Je passe mon bac en 75. J'aurai 20 ans un ou deux mois plus tard, parce que je suis d'octobre, donc je passe mon bac en juillet. Au rattrapage, je suis très fier d'avoir une mention, assez bien, même au rattrapage. C'est quelque chose auquel je tiens. Et je crois que les points que j'ai pu gagner à la natation ou à la gym ont beaucoup compté dans ma note finale. Enfin, peu importe. J'ai mon bac avec une mention assez bien et je commence des études de lettres à Lyon. Assez rapidement, je me trouve un peu en porte-à-faux. J'aime pas tellement l'atmosphère de la fac. J'ai été à la fois un mauvais élève et un très bon lycéen, c'est-à-dire que j'étais assez médiocre dans mes humanités, mais j'adorais la vie du lycée. Et quand je suis arrivé à la fac, j'ai beaucoup moins aimé cette espèce de liberté dont on ne faisait rien, qui consistait à pouvoir assister aux cours ou ne pas y aller et que personne ne vous en voudrait jamais. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et en même temps, j'ai commencé par être pion. Alors j'ai d'abord été pion au CES du Revermont, après je suis redevenu pion au lycée Lalande où j'avais fait toute ma scolarité, de la 5e, enfin 6e on va dire, jusqu'à la terminale. Et là, au bout d'un moment, j'ai été un peu rattrapé par le fait que je ne passais pas d'examen, ou en tous les cas, je ne les réussissais pas. Et l'éducation nationale m'a foutu dehors en me disant, écoutez, on ne va pas vous payer pour rien faire. Et là, je n'avais pas beaucoup de mal, hein, puisque comme vous l'avez rappelé, mon père était directeur départemental adjoint de La Poste. Donc, je suis entré au PTT et j'ai trié des sacs et des lettres au centre de tri pendant plusieurs étés. Et les étés sont devenus de plus en plus longs et se sont finalement transformés en années. C'est-à-dire que je n'allais plus en fac, j'avais plus... Et c'est à partir de 83-84, je crois, donc déjà un âge assez avancé, vers 27 ou 28 ans, que j'ai pris la décision, ou du moins j'ai fait en sorte que la décision soit inévitable, c'est-à-dire que, ayant passé le concours de préposé, de facteur, j'ai été immédiatement nommé à Paris et que j'étais bien obligé de quitter la ville. Mais ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire un peu volontairement et un peu en traînant des pieds.
Donc la suite, ce sont des rencontres et puis ce métier de journaliste et de reporter que vous exercez encore aujourd'hui. Écrire est bien plus qu'un métier, une passion, une drogue.
C'est un passe-temps. Je ne saurais pas vraiment quoi faire de ma vie si j'écrivais pas. Oui, c'est juste un passe-temps. Quand j'ai fini un livre, ben, j'en recommence un autre parce que je ne saurais pas quoi faire de ces journées. C'est long, 24 heures par jour, et j'ai besoin d'avoir, encore une fois, peut-être comme pour la lecture, ce moment de retrait où je me retranche du monde et où j'écris. Alors bon, ça peut être 2 heures le matin, ça peut être 2 heures de l'après-midi, mais en fait, l'écriture, ce n'est pas simplement le moment où on se met devant son ordinateur ou devant son cahier. Finalement, j'écris plus quand je n'écris pas que j'écris quand j'écris. C'est-à-dire qu'un livre, une scène, un passage, je vais y penser un peu toute la journée. Je vais y penser dès que j'aurai les yeux ouverts, dès que j'aurai mis un pied par terre. Et ça va me poursuivre dans ma journée. Je vais écrire comme ça mentalement des phrases. Et puis, je vais les noter sur un bout de papier. Mais devant ma machine à écrire, je n'y passe au maximum que 2 heures par jour. Et le reste du temps, je tourne autour comme une sorte de chien qui aurait reniflé une poubelle, quoi. Mais je peux dire, oui, je suis écrivain parce que l'essentiel de mes pensées sont dirigées vers cette activité-là.
Donc vous avez travaillé, et vous continuez d'ailleurs d'écrire pour la presse. Écrite essentiellement.
Essentiellement, j'ai jamais fait autre chose que la presse écrite parce que je ne supporterais. Enfin, je suis quelqu'un de très étourdi. Je perds beaucoup de choses. Enfant, je perdais, mais. Enfin, je sais pas, à l'école Lazare Carnot, ils ont peut-être encore 15 cagoules, 12 casquettes et 4 pulls qui m'ont appartenu. J'ai perdu des quantités de choses enfant. Et quand je suis arrivé dans la presse, j'étais content finalement de n'avoir qu'à perdre un stylo et un calepin. Et le nombre de fois où je suis arrivé sur un reportage où je n'avais ni stylo ni calepin, mais c'est ahurissant. Enfin, heureusement que j'ai eu des collègues très généreux, très sympathiques, qui à chaque fois m'ont tendu un bic, une feuille de leur propre calepin pour que je puisse prendre des notes. Et donc, j'ai trouvé que la presse écrite, finalement, c'était ce qui rendait le plus libre physiquement. Je voyais les confrères des radios qui traînaient des nagras. Ou à la télé, je les appelais les enchaînés. Il y avait le caméraman, il y avait le preneur de son. Et puis après, il y avait le ou la journaliste qui était derrière. Et ils étaient obligés de dîner ensemble le soir. Et tout ça, ça me paraissait infernal. Et moi, j'arrivais avec, j'allais dire une expression graveleuse, mais j'arrivais avec mon crayon et mon calepin. Et c'est tout ce dont j'avais besoin. Et donc, j'ai vraiment choisi la presse écrite pour ça. Et je crois aussi que j'ai choisi la presse écrite, évidemment, parce que j'aimais écrire. Et que longtemps, puisque j'ai travaillé 18 ans au Parisien et à peu près 15-20 ans au Monde, peut-être 20 ans au Monde, ouais. Longtemps, l'acte d'écrire, c'est-à-dire l'activité d'écrivant, c'est-à-dire ni auteur ni écrivain, mais d'écrivant pour la presse, m'a comblé. C'est-à-dire que, écrivant un papier par jour, le soir ou très tôt le matin, puisque Le Monde était un journal qui bouclait dans la matinée, eh bien j'étais repu. C'est-à-dire que la fonction, comment dirais-je, presque physique de l'écriture avait été comblée par le fait de devoir écrire un article par jour sur un sujet dont parfois je n'en avais rien à fiche. Hein, mais donc pendant longtemps, ça a été le journalisme a servi d'exutoire à mon désir d'écrire. Parce que dans ces années que je vous décrivais tout à l'heure, de pion, de postier, j'avais commencé d'écrire des livres. Et j'ai encore des manuscrits qui datent de cette époque et dont il m'arrive de me resservir. Mais ces livres ont été refusés. Donc, comme je ne suis pas quelqu'un de très obstiné, je ne me suis pas entêté à vouloir à tout prix devenir écrivain. Je me suis dit, bon, bah, ça ne marche pas, ça ne marche pas, on va essayer autre chose. Et puis le hasard de la vie et la chance, parce que je dois reconnaître que j'ai eu quand même beaucoup de chance dans cette histoire-là, a fait que bah, j'ai pu rencontrer un métier qui a pu satisfaire ma pulsion d'écriture. Et j'ai recommencé d'écrire des livres romanesques, on va dire, qu'à partir du moment où je n'ai plus travaillé pour Le Monde, hein, c'est-à-dire en 2021, je crois. Enfin, le premier roman de la série sur le roman de la ville est sorti il y a à peine 5 ans, et à partir au moment où, du Covid, où j'ai plus ou moins pris ma retraite.
Donc, votre premier livre que vous avez édité s'appelle « Le président et moi ».
Ouais, chez Albin Michel, oui.
Et qui raconte la fulgurante ascension de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République.
Exactement.
Vous l'avez écrit comme on écrit un roman ?
Peut-être un peu, parce que j'ai toujours eu avec Sarko l'image de lui que c'était un personnage romanesque. Voilà, que je sois ou pas d'accord avec ses opinions, n'entrait absolument pas en ligne de compte. Je le trouvais formidablement romanesque. Donc, je l'ai un peu vu comme un personnage de roman. Et moi, j'ai essayé dans ce livre d'être le plus honnête possible et de raconter, de dire que finalement, les journalistes qui le suivent au quotidien ne voient rien. Ne voient que ce que le candidat veut bien vous montrer. Et les journalistes sont un peu dans la position de Fabrice à Waterloo dans La Chartreuse de Parme, c'est-à-dire qu'il est toujours derrière la bataille, le journaliste. Il n'est jamais dans... Même si on lui montre ou on lui entr'ouvre les coulisses, il ne voit rien. J'ai fait toute la campagne de Sarkozy sans avoir entendu le nom de Patrick Buisson, qui était son conseiller le plus régulier, celui qui a apporté des idées comme le ministère de l'Identité nationale, etc. Moi, je n'ai rien vu de tout ça. Alors que je passais, j'aurais pu dire, oui, je passais un peu mon temps avec lui. Enfin, cette campagne, elle a commencé en 2004, plus ou moins, elle s'est terminée en 2007. Et pendant 3 ans, j'ai mangé, j'ai dormi Sarkozy. Mais je n'ai rien vu. Et j'ai voulu raconter ça. Oui, j'ai voulu raconter ça. Je n'ai pas voulu raconter une épopée. J'ai pas voulu... Parce qu'au départ, on m'avait dit, tu voudrais pas écrire un truc sur Sarkozy et la presse. Moi, j'ai dit, mais non, moi, j'en sais rien, Sarkozy et la presse. Je suis journaliste, mais moi, ce que je peux vous raconter, c'est Sarkozy et moi. Et c'est comme ça que le livre s'est fait.
Alors, 5 ans plus tard, vous récidivez avec un deuxième livre, L'Italie, Rome et moi. Un texte très personnel.
Oui, c'est le premier livre qui aborde peut-être la ville à cause de l'exil, c'est-à-dire que c'est un exil que j'avais choisi. Hein. J'ai toujours désiré vivre en Italie, j'ai eu la chance d'y habiter pendant 8 ans. J'avais à l'époque une femme italienne, j'ai un petit garçon qui est binational. Donc j'ai vraiment voulu, j'ai désiré ardemment. La première fois que je suis allé à Rome, je suis parti de la gare de Bourg. Hein, et donc ça en 78 ou quelque chose comme ça, 76 je crois. Et donc l'Italie, c'était vraiment, c'était aussi la plus proche frontière. Alors évidemment, on a la frontière suisse, mais la frontière suisse, c'est pas tellement des paysans. Alors que la frontière italienne, passer le tunnel du Mont-Cenis ou le tunnel du Mont-Blanc, tout de suite, c'est un autre monde. Et j'ai été très très sensible à ça, donc j'ai voulu retourner en Italie. J'ai tanné les directeurs du Monde successifs pour qu'ils maintiennent la parole qu'ils m'avaient donnée de me nommer un jour correspondant en Italie. Et j'ai raconté justement dans ce livre mon rapport avec l'Italie, c'est-à-dire à la fois une envie furieuse d'être italien, et à la fois ma déception de ne pas être parvenu à l'être, et déjà pointe dans ce livre-là Bourg-en-Bresse, qui est cette fois nommée, disons, une ville, en arrière-plan, à la fois comme quelque chose de fui et de désirable.
Donc 7 ans après L'Italie, Rome et moi, paraît votre 3e livre Ce crime est à moi, mélange de fiction et de réalité, celle d'un meurtre à Bourg-en-Bresse en 1974 d'un maître nageur par une étudiante en philosophie. Vous avez décidé de remonter à votre adolescence à travers ce roman. Vous êtes un nostalgique de cette période et de l'avant-départ
non.
à Paris ?
Non, alors je m'inscris en faux. Je déteste qu'on dise que j'écris des livres nostalgiques. Je n'ai aucune nostalgie du temps passé. Je n'ai aucune nostalgie de ma jeunesse. Je peux en ressentir parfois une certaine mélancolie, mais je me dis jamais c'était mieux avant. C'est-à-dire que là, encore une fois, on est à 50 mètres de l'école Lazare Carnot. Pour rien au monde, je voudrais revivre mon enfance et mon CM1 et mon CM2 dans cette école sinistre. Excusez-moi du terme, mais... Vraiment, je n'aimerais pas remonter le temps. Enfin, je serais vraiment très malheureux si on me reprojetait dans les années 70. Par contre, je suis un romancier qui a un peu de mémoire et qui n'a pas beaucoup d'imagination. Donc, je fais avec le peu de moyens que j'ai. Et parmi ces moyens-là, je crois que j'ai la capacité de pouvoir, en quelques images et en quelques phrases, restituer le passé. Mais je ne le restitue pas par nostalgie, je le restitue un peu comme un... Je suis comme un archéologue. C'est-à-dire, un archéologue va découvrir la moitié d'un fémur enfoui dans la terre. Donc, il va prendre une brosse à dents, une balayette, une petite truelle, et puis il va sortir petit à petit cet ossement. Après, il va en découvrir un autre, et avec ses petits ossements, il va essayer de reconstituer un squelette entier. C'est exactement ce que je fais. J'ai dans ma mémoire quelques ossements. Il y a beaucoup de vide entre ces ossements. Et mon imagination, enfin le peu que j'ai, va servir à cimenter ces petits ossements et à faire en sorte qu'à la fin, il y ait un cadavre. Fût-il celui de ma jeunesse.
Alors, la suite des aventures de... Parce que... Non. Lorsque vous écrivez « Ce crime est à moi », vous l'écrivez comme un journaliste ou comme un romancier ?
Là, je suis un peu entre les deux, parce que je me sers beaucoup de ce qui a été écrit dans la presse à l'époque, les papiers du Dauphiné, du Progrès, de Mérindol et tout ça. J'ai nourri le livre d'éléments qui existaient déjà, qui étaient les articles de presse que je suis allé chercher dans les archives à la bibliothèque Roger Vaillant. Et j'ai fait des photocopies, etc. Mais voilà, j'étais encore un journaliste dans le sens où j'avais besoin de tenir la rampe des faits. Comme quelqu'un qui descend un escalier mais qui n'est pas trop trop sûr de lui. Voilà. Mmh. Et donc, je me suis servi des éléments réels pour raconter quelque chose qui est, par bien des dehors, complètement inventé.
Et personnel.
Et, oui, personnel, bien sûr. Ouais. Mmh. J'ai nourri ce livre à peine de souvenirs, parce que je me souviens très très peu de cette affaire. Sauf que... Comme tous ceux qui fréquentaient la piscine, on disait qu'on avait connu le mort et potentiellement croisé la meurtrière. Donc quand on a, je sais pas, 18, 17 ans, forcément ça fait de l'effet.
Ouais. Donc la suite des aventures de ces adolescents de province, c'est tout d'abord Des Amis de Passage, paru en 2023, et un an plus tard, Bande de Héros.
Ouais.
Aux éditions des Équateurs, on parle de personnages récurrents dans les romans, vous avez les vôtres, et vous en faites partie.
Alors, je suis tous les personnages, je ne suis pas un seul personnage. Je sais bien qu'on peut dire, bah oui, peut-être le personnage de Pontus, ce sera un peu plus Philippe Ridet, mais je vous assure que dans le dernier, Bande de Héros, je suis tour à tour chacun des personnages. Tout ce qui est arrivé à chacun des personnages, que ce soit Jean-Denis, Walter, Abdoul, Pontus, d'une certaine façon, m'est arrivé. Donc, je suis... c'est comme une diffractation de moi-même, quoi. Je suis 4 fois présent dans 4 personnages différents.
Donc, on retrouve dans Bande de Héros des adolescents qui se posent des questions sur leur avenir.
Ouais.
On a tous connu à cette période de doute, vous aussi. Elle vous a marqué à ce point ?
Il faut croire. je pense, oui, que ça m'a marqué. Enfin, ce qui m'a marqué, c'est que j'étais très heureux dans ma ville. J'avais aucun problème de... J'étais pas rejeté par elle. Mes parents étaient totalement intégrés dans cette ville, donc ça me servait aussi de sésame, d'une certaine façon. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui me disaient « je connais bien votre maman » ou « je connais bien votre papa », donc ça c'était un passeport. J'aurais pu rester là vraiment des années. Et je me suis interrogé justement sur pourquoi ne pas y rester. Mais j'avais non pas un rêve, ni une ambition, mais je me disais que si je restais ici, je n'aurais plus ni rêve ni ambition. Je ne saurais pas dire exactement quel était ce rêve et quelle était cette ambition, mais j'avais dans l'idée que ici, rien ne pouvait se passer qui me concerne. Je reconnais que c'est une forme de snobisme, que ça peut paraître peut-être un peu méprisant ou surplombant vis-à-vis de vos auditeurs, mais il fallait que je parte. Je ne pourrais pas dire pourquoi. Peut-être il y a une espèce de quelque chose de génétique. Mes deux grands-parents, les parents de mon père, aussi bien ma grand-mère que mon grand-père, étaient l'un et l'autre cousins germains, donc peut-être aussi hérité de quelques tares. Mais surtout, il se trouve, qui est un fait presque inouï à l'époque, c'était des enfants de paysans de Saône-et-Loire, du côté de Cuisery, dans ces coins-là, vers Tournu. Et tous les deux ont décidé d'aller passer, alors certes, ils se fréquentaient, mais d'aller passer leur baccalauréat, qui s'appelait l'Abitur, en Allemagne. Pour mon grand-père, à Bad Kreuznach, alors que ça n'a aucun rapport avec le fait que Bourg-en-Bresse était jumelé à Bad Kreuznach, puisque ça se passe en 1910, et pour ma grand-mère, à Hanovre. Donc, qu'est-ce qui a poussé des enfants de Péquenaud, de Saône-et-Loire, à se dire un jour, on va aller passer le bac en Allemagne? Après quoi, la guerre a évidemment tout bouleversé leur rapport avec l'Europe, etc. Mais, enfin, la Première Guerre mondiale. Et peut-être que j'ai hérité de ça. Mon frère, par exemple, habite à Chicago. Pourquoi il était à Chicago? J'en sais rien. Il a passé aussi, lui aussi, il a été à l'école à côté. Pourquoi un jour, il est parti à Chicago? J'en sais rien. Moi, je n'ai pas été jusqu'à Chicago, je suis allé jusqu'à Paris. Mais je pense que pour moi, Paris, c'était aussi loin que pour lui, Chicago.
Alors dans Bande de héros, ceux qui connaissent Bourg-en-Bresse et qui vous connaissent ont reconnu les rues et les lieux incontournables de la préfecture indinoise et aussi de Saint-Denis-les-Bourgs. Je pense à la rue Sadi Carnot.
Oui, Sadi Carnot, mais je ne savais pas que c'était à Saint-Denis-les-Bourgs. Je pensais que ça existait nulle part à Bourg-en-Bresse.
D'accord, bon.
Alors, non, mais c'est bien de me l'apprendre.
Donc ceux qui ne connaissent pas ces lieux ont forcément une autre vision du roman et des personnages.
Oui, parce que la ville que je décris, d'abord, elle n'est jamais nommée. Oui. Donc, on ne peut pas me faire à moi le reproche d'avoir décrit trop précisément une ville. Et pour ce qui concerne le Bande de héros, je pense que la ville est plutôt un mixte entre quelques éléments de Bourg et puis quelques éléments d'Ambérieu-en-Bugey. Mais il me semble que plus j'écris sur cette ville, et plus j'arrive à la faire se flouter. La ville devient de plus en plus comme une buée, elle a de moins en moins de rapport au réel. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis à Paris et que j'écris sur la ville, je ne vois plus Bourg-en-Bresse. Je vois la ville que j'ai, d'une certaine façon, réinventée. Et quand je viens à Bourg, je me dis, finalement, ça ressemble pas tellement à ce que je raconte. Mais ce que je raconte, enfin, l'imaginaire de la ville a supplanté le réel de la ville.
Dans Bande de héros, on s'identifie très rapidement aux personnages. On a tous connu ces moments de jeunesse insouciants. On a tous connu un jour une bande de héros.
J'espère. J'espère qu'on a tous connu une bande de héros, parce que moi, cette bande de héros, elle m'a constitué. Elle a été ma force, justement, à l'adolescence, quand cette période où on doute de tout et de tout le monde, quasiment. Avoir autour de soi 4 ou 5 amis, enfin, de potes, de copains, appelez ça comme vous voulez, c'est une force extraordinaire. Ça. on peut affronter tous les orages, tous les doutes, tous les questionnements. C'est génial d'avoir une bande de héros. Enfin, je plains les gens qui n'ont pas une bande de héros.
Ah, vous habitez en Normandie ?
Alors, j'habite et à Boulogne-sur-Seine, à côté de Paris, et puis une bonne partie de l'année en Normandie, dans un petit village du Perche qui s'appelle Tourouvre.
Alors, vous qui avez passé votre jeunesse à Bourg-en-Bresse, venir à la rencontre de votre public dans l'Ain est une obligation.
C'est un plaisir, mais c'est une angoisse.
Ah oui.
Parce que, d'abord, les gens qui viennent ne sont pas tous des inconnus. Et parmi les gens que je connais, je ne sais pas s'il n'y en a pas certains que je n'ai pas envie de voir. C'est-à-dire que...
Vous avez la liste ?
Chaque rencontre devient très personnelle. Et c'est... je sors de ces signatures à Bourg, j'en sors épuisé. Nerveusement. C'est très touchant. D'abord, il y a beaucoup de gens, enfin de moins en moins, hélas, maintenant, pour eux, qui ont connu mes parents, donc ils m'en parlent. Donc... C'est plein d'affect. C'est pas... Je préférerais signer à Romorantin où je connais personne. Là, je sais que ça va être une soirée qui sera riche émotionnellement et je le redoute parce que c'est pas neutre. Enfin, j'ai pris un quart de l'exomile avant de venir parce que je sais que ça va être pas une épreuve au sens de quelque chose qui vous lasse à l'avance. Mais je sais que je vais en sortir un peu lessivé, oui.
Alors, avec le roman Bande de héros, c'est aussi la fin de votre histoire d'adolescent et de jeune adulte avant votre départ à Paris, où il y aura une suite.
Alors, au départ, je voulais intituler les trois romans sous le titre « La trilogie de la ville ». Puis je me suis dit, non, c'est idiot, parce que c'est écrit trilogie, tu ne pourras jamais en faire un autre. Alors, j'ai préféré l'intituler « Roman de la ville », qui laisse la possibilité qu'il y en ait un quatrième. Oui, j'aimerais bien écrire un quatrième, même si le livre sur lequel je travaille désormais n'a rien à voir avec cette trilogie-là. Enfin, c'est quelque chose qui se passera dans les années 2000 à Paris, avec des gens qui ont 40 ans, ou donc des adultes, etc. Donc, ça ne sera pas le roman de la ville, mais je n'exclus pas de revenir plus tard, me rebaigner dans ce fleuve.
Bien. Alors, tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Philippe, quel est votre dernier coup de cœur littéraire ?
C'est court. Je vais dire deux. J'ai lu le roman de Philippe Janeda, La désinvolture est une bien bonne chose, qui est sélectionné pour le Goncourt, entre autres. Et j'ai beaucoup aimé, même si l'entrée dans le livre est un peu difficile. Et puis j'ai adoré réellement le livre de Yasmina Reza qui s'appelle Récit de certains faits aux éditions Flammarion, qui est un livre qu'on pourrait estimer mal gaulé, mal foutu, mais qui a un charme incroyable. Et vraiment, je recommande à tous les auditeurs de se ruer sur le livre qui mêle à la fois des récits de procès qu'on connaît déjà, mais elle les raconte tellement bien, et des faits personnels qu'elle entremêle dans une espèce de désordre, mais en fait qui est un désordre très maîtrisé. Et vraiment, je recommande ce livre parce que Yasmina Reza est une des très grandes autrices françaises. Vous voyez, j'emploie vos propres mots, on va dire une très grande femme de lettres. Et elle mérite d'être lue et relue. Elle est fine, elle est drôle, elle est ironique. Et par ailleurs, c'est une amie et je suis vraiment heureux de pouvoir faire la promotion de son livre.
Bien, côté sortie, notons les derniers romans de Robert Ferrari, Au nom du secret du temple et Quand les poulets se mettront à table, aux éditions Le Diamant de la Vouivre, dans la collection Les couloirs du temps, et qui sera mon invité le jeudi 3 octobre 2024. Il y a le livre de Claude Ardide, Les enfants du purgatoire, aux éditions de l'Observatoire, le nouveau roman du chanteur Florent Marchais, que nous aimons bien à Radio B, L'admiration, aux éditions Stock, le nouveau polar de Thierry Colombier, Une affaire corse, aux éditions Nouveau Monde, le nouveau livre de Karel Ferret Magalé, aux éditions Robert Laffont, et le nouvel essai de Roger Herkisch, La grande transformation du sommeil, aux éditions Amsterdam. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces. Philippe, avez-vous des rencontres et des séances de dédicaces dans la région à annoncer, à part celle de ce soir au domaine de la garde à 19h?
Hélas, non.
Vous n'avez qu'une?
Pour l'instant, oui.
D'accord.
Les libraires ne se bousculent pas pour m'inviter.
Voilà. C'est peut-être trop tôt, non?
Oui, il faut attendre. Mais enfin, voilà. Bon, comme je suis présélectionné pour le prix des deux magots qui sera remis le 7 octobre, j'espère que si j'obtenais la faveur de l'avoir, ça déclenchera quelques signatures que je préférerais régionales plus que d'aller me traîner à Metz ou à Toul.
Bien. Eh bien, Philippe Ridet, merci d'avoir accepté
merci
l'invitation de Radio B et de Roman de Gare. Rappelons que votre dernier roman en date, Bande de héros, est paru le 28 août 2024 aux éditions des Équateurs. On peut se procurer où, sans oublier vos autres livres et romans?
Sur Internet, chez mon barbon, où vous voulez, dans une poubelle, je sais pas.
Dans une poubelle, vous aviez trouvé.
Dans une ressourcerie, dans une... peu importe. Je n'écris pas des livres pour gagner de l'argent. Mon éditeur les publie peut-être pour ne pas en perdre. Mais si je ne touche pas mes 2,50 euros sur un livre, je ne vais pas en pleurer. Donc je préfère avoir des lecteurs plutôt que des acheteurs.
Donc en bibliothèque, en médiathèque.
Bibliothèque, médiathèque, ressourcerie, voilà. Boîte à livres, Rakuten, Montbarbon, ce que vous voudrez.
Voilà.
Je m'en fiche, du moment qu'on me lise.
Bien. Le prochain invité donc, de Roman de Gare, le jeudi 3 octobre 2024, sera le romancier Robert Ferrari. Il présentera donc ses derniers romans, Au nom du secret du temple et Quand les poulets se mettent à table, aux éditions Le Diamant de la Vouivre et dans la collection Les couloirs du temps. Donc, concernant Robert Ferrari, l'adjudant d'Elpéry de la gendarmerie de Morvel traversera l'histoire du département de l'Ain à travers l'histoire des Templiers et une des richesses de la presse, la fameuse volaille.
Ah, hein, formidable.
Formidable. Donc, Philippe, bonne chance pour la suite de vos aventures d'homme de lettres.
D'homme de lettres, oui, c'est bien. C'est voilà. Un peu désuet, mais c'est bien. Il faut remettre au goût du jour les goûts désuets, les expressions désuètes. C'est comme les légumes oubliés dans les restaurants.
Voilà. Bonne écriture, bonne rencontre et séance dédicace. Et à bientôt sur Radio B.
Oui, quand vous voulez. Je reviens en courant.
Bien, bonne soirée.
Vous aussi.
Étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.